C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la 25e conférence des Nations Unies sur le climat a réuni 26 000 personnes pendant deux semaines à Madrid pour... rien ou presque. C'est désespérant, oui, car cela prouve à nouveau la déconnexion entre les attentes des citoyens et l'inaction des décideurs politiques que, rappelons-le, nous avons élus. Mais c'est aussi la démonstration que nous devons agir chacun à notre niveau. Comme une auditrice nous l'a écrit, il va falloir relever les manches sévères. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est ce qui est en train de se passer sur tous les continents. Vous allez l'entendre dans cette émission, des États-Unis à l'Inde en passant par la France. La résistance s'organise, notamment contre les projets d'aménagement du territoire incompatibles avec la préservation de notre environnement.
C'est pas du vent sur RFI.
Le moment est venu de s'attaquer au rouage du système qui broie l'humain et la nature directement là où on vit.
On a marché pour le climat.
On a signé l'affaire du siècle.
On a occupé les ronds-points et même pris les Champs-Élysées.
Depuis des mois, on se rebelle contre l'extinction du vivant.
Mais rien ne bouge.
L'échelon national est bloqué. Macron et son monde nous enfument et continuera de le faire. Et la destruction du vivant se poursuit à un rythme effréné. Alors on va changer de stratégie pour avoir un impact direct là où on habite. On va soutenir, rejoindre et créer des collectifs en lutte contre les sites et projets polluants ou injustes partout sur le territoire. C'est ça, super local.
À chaque fois, on se dit qu'il faut être patient, que ça va venir, que la société va finir par se rebeller. Et au final, on continue d'attendre ce moment magique.
Mais ce moment magique que t'attendais, c'est maintenant. Et nous sommes celles et ceux que nous attendions.
Bonjour Eliott Lepers.
Bonjour.
Vous êtes un web activiste, vous avez entre autres fondé l'ONG Le Mouvement. Bonjour Chloé Gerbier.
Bonjour.
Vous êtes juriste au sein de l'association de lutte pour la justice climatique Notre Affaire à Tous. Alors je précise que vous êtes tous les deux par téléphone à cause de la grève qui paralyse Paris. Et vous participez tous les deux au projet super local dont nous venons d'entendre un extrait. Nous allons en parler dans un instant. Mais je voulais tout d'abord vous demander votre réaction face au bilan de la COP25. Est-ce que vous avez suivi cette réunion et ce qu'il en est sorti, Eliott ?
Oui, évidemment, on a suivi et puis on a assisté tout à fait dépité quoi, à l'absence totale de décision. C'est à la fois pas de bonne nouvelle et c'est en même temps une très mauvaise nouvelle. Quoi. C'est, on se rend compte que les COP continuent de se succéder et malgré l'opinion publique qui évolue extrêmement vite, eh bien, nos dirigeants échouent toujours à être au rendez-vous.
Chloé Gerbier, comment est-ce que vous voyez cette COP, vous ?
Bah, exactement pareil. Je pense qu'on n'en attendait pas grand-chose, mais je pense que c'est toujours attristant de constater cet échec qu'on prévoyait plus ou moins.
Enfin, il y avait beaucoup d'attentes quand même de la part de beaucoup de monde, mais c'est sûr qu'on a abouti à un résultat extrêmement décevant. Donc, du coup, vous n'attendez pas que tout tombe des décideurs politiques. Vous agissez sur le terrain et ça donne Super Local, qui a donc été lancé fin novembre. De quoi s'agit-il, Eliott Lepers ?
Super local, c'est l'idée d'accompagner ces luttes locales. Il y en a partout en France, des collectifs d'habitants qui sont opposés à un projet ou un site polluant et injuste. Ça peut être un nouveau centre commercial, ça peut être la fermeture d'une petite ligne de chemin de fer, ça peut être la construction ou un contournement autoroutier, ça peut être une raffinerie, une cimenterie, un nouveau surf park. Il y en a absolument partout en France, des sites notamment très polluants, il y en a plusieurs milliers, et puis des projets qui vont continuer à détruire le vivant, à abîmer nos terres, à polluer nos rivières et puis à ne pas aller dans le bon sens d'une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est les accompagner, identifier ce dont ils ont besoin et leur procurer un accompagnement sur mesure, à la fois sur des recours juridiques avec l'association Notre Affaire à Tous dans laquelle Chloé travail, avec de la communication en lien avec la chaîne YouTube Partager c'est sympa et avec de la mobilisation, là plus que l'ONG Le Mouvement que je représente va intervenir, pour qu'il soit le plus effectif possible à un moment qui est actuellement particulièrement stratégique, où à la fois la population est mobilisée, où on voit que au niveau national, on n'arrive pas encore à avancer comme on le devrait et où plein de gens cherchent à s'engager autrement. Et donc, justement, il y a tous ces projets-là sur lesquels il faut qu'on se mobilise.
Alors, chaque collectif a son autonomie. Quand on va sur le site de Superlocal, il y a une carte de France. Si on totalise, on arrive à peu près à 200 collectifs. Il va y en avoir, j'imagine, de plus en plus. Donc, on a compris, vous voulez les accompagner parce que quoi, tout le monde ne se connaît pas. Tout le monde, parfois, certains agissent peut-être sur les mêmes choses et on est plus fort à plusieurs.
Il y a effectivement, on a recensé avec l'aide de reporters et Lauriane Chollet, plus de 200 collectifs actifs qui sont sur cette cartographie, mais aussi plus de 658 villes où il y avait une énorme mobilisation et pas encore de collectifs mobilisés contre un projet local. Donc on veut aider les collectifs existants à se professionnaliser, à potentiellement se financer, à développer les recours juridiques, recruter beaucoup de nouveaux membres pour ces groupes. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est on veut multiplier ces collectifs. On veut que partout où il y a un projet problématique localement, il y ait en face un collectif d'habitants qui soit structuré, motivé et qui milite au quotidien pour l'empêcher.
Et qui, du coup, oui, ose s'engager puisque se sentant accompagné. Chloé Gerbier, donc le droit est une arme. Comment est-ce que vous allez accompagner, vous, ces collectifs ?
Alors, ce qu'on peut voir en fait avec ces projets imposés inutiles, c'est qu'on n'est plus sur du grand plaidoyer climat, comme on a pu essayer de le mener au sein de l'affaire du siècle. Mais en fait, avec les images de cette politique gouvernementale, on est sur un droit qui est très technique. On va être sur du droit de l'urbanisme, on va parler permis, autorisation, études d'impact, du droit de l'environnement aussi, avec dérogation espèces protégées, ce genre de gros mots, installation classée pour l'environnement, etc. Et en fait, on constate très rapidement que ces collectifs, ils se battent à armes complètement inégales contre les promoteurs ou les pouvoirs publics qui, en fait, essayent de faire se concrétiser ces projets. Nous, on est là justement donc pour les accompagner, pour diagnostiquer et pour revenir vers eux avec des solutions plus concrètes et accompagner au moins les premiers pas juridiques pour qu'ensuite ils puissent avoir les connaissances de la procédure et de ce qu'ils peuvent faire et de quelles armes ils ont en main.
Mais pour accompagner tous ces collectifs, et on a bien compris l'idée, c'est qu'il y en ait de plus en plus, il faut une armée de juristes.
Il faut une armée de juristes, en effet. C'est incroyable, le projet a énormément mobilisé aussi de bénévoles. De plus en plus d'inscrits sont là pour nous aider. Et aujourd'hui, avec le projet Superlocal, on a déjà une team de 30 juristes au sein du groupe Recours Locaux à Notre Affaire à Tous pour constituer l'équipe juridique de Superlocal et qui sont très motivés.
Alors, je vous le disais en début d'émission, les mouvements de résistance se développent sur tous les continents. En Inde, sur la côte ouest, un collectif de militants se bat depuis des mois pour empêcher la création de la troisième ligne de métro de Bombay dans la forêt d'Aharai. Cette forêt de 1300 hectares située à quelques centaines de mètres des gratte-ciels est un poumon vert pour cette ville tentaculaire de 30 millions d'habitants. C'est une immense réserve de biodiversité et un abri aussi pour le peuple Adivasi qui vénère ces arbres et qui y habitait bien avant que les colos britanniques ne transforment les 6 îles de Bombay en l'une des plus grandes mégapoles du monde. Alors les partisans du métro argumentent que plus de transports en commun, c'est moins de pollution, mais les opposants craignent que ce métro ne soit qu'un cheval de Troie pour faire pousser d'autres infrastructures. À Bombay, jungle primitive contre jungle urbaine, c'est un reportage de Combastin. Aray est une forêt en plein cœur de la ville de Bombay. En ce moment, il fait très chaud et il y a beaucoup de barricades et de policiers. Nous nous trouvons juste devant le chantier du métro. C'est ici que la Mumbai Metro Corporation veut construire le terminus d'une ligne de métro. C'est contre cela que nous manifestons. Depuis 2 mois, nous nous rassemblons ici tous les dimanches. Nous formons des chaînes humaines. Nous protestons contre ce dépôt de train.
Donc là, on voit qu'on est entouré de policiers. Quelle a été l'attitude des forces de sécurité envers les manifestants ces derniers temps ?
Ils prennent fait et cause pour le gouvernement et se comportent comme des gardes du corps. Ils s'infiltrent en civil et tentent de soutirer des informations. Elles sont ensuite utilisées pour intimider les manifestants. Ils obtiennent votre adresse, votre nom et un jour, vous recevez une lettre déclarant que vous avez fait quelque chose d'illégal et que des poursuites vont être engagées contre vous.
Il y a eu aussi pas mal d'arrestations.
Oui, la nuit du 4 octobre, la Mumbai Metro Corporation a commencé à abattre des arbres au beau milieu de la nuit. Beaucoup d'habitants de Bombay sont alors venus pour essayer de s'opposer à cette déforestation. Des centaines ont été arrêtés et certains ont été inculpés de très graves délits.
Donc là, il y a des concerts, on est entouré de femmes et d'hommes dans des tenues très traditionnelles. Qui sont les gens qui habitent à Harare?
À la base, Bombay n'était pas une ville. Elle a été créée par les Anglais. Il y avait 7 îles différentes qui ont été reliées entre elles en comblant l'eau qui les séparait avec de la terre. Les habitants originels des lieux sont les peuples tribaux que vous pouvez entendre en ce moment. Aujourd'hui, il y a 27 villages et environ 10 000 indigènes qui vivent dans la forêt d'Harare.
Bonjour Prakash, vous êtes une figure reconnue du peuple Adivasi, ce peuple tribal qui vit près de Bombay. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire et de votre combat aujourd'hui?
Je m'appelle Prakash Bohire et je vis ici depuis toujours. Nous, les Adivasis, sommes les premiers habitants de ces lieux. Cela fait tellement de générations que nous habitons la forêt que nous en avons perdu la trace. Pour nous, Dieu et la nature ne font qu'un. Nous vénérons les arbres et les différents projets qui ont peu à peu été introduits dans la forêt la détruisent. C'est pour sauver la vie sauvage que nous nous battons.
Est-ce que vous pensez que ces travaux vont se limiter à ce dépôt de métro ou qu'ils vont raser toute la forêt
d'Harare? Non, je crois que ce métro est juste une porte d'entrée pour la forêt d'Harare. Une fois qu'il sera construit, d'autres projets vont sortir de terre. Avant même le métro, il y a eu beaucoup de constructions dans la jungle. Leur objectif, c'est de prendre possession de toute la forêt.
Et là, on voit des buildings qui sont vraiment à quelques dizaines de mètres de votre maison. Est-ce que vous avez peur de devoir déménager prochainement?
On
nous dit souvent que nous serions plus en sécurité dans des grands immeubles modernes comme ceux-ci. Mais ce sont justement d'eux qu'il faut nous protéger. Nous vivons déjà en harmonie avec les léopards, avec la nature. Ce qui nous effraie, c'est la destruction de notre habitat naturel. La terre, c'est notre mère et nous sommes tous ses fils. Que l'on soit politique ou simple citoyen, notre premier devoir est de la protéger. Nous avons oublié que les animaux et les plantes ont le droit de coexister avec nous, sur cette planète, à égalité.
Merci Prakash.
Je m'appelle Pramila Boy. Je fais partie de la communauté Adivasi et je me bats pour défendre les arbres. Car ce sont eux qui fabriquent l'oxygène qui nous permet de vivre. La nuit du 4 octobre, j'ai appris l'opération de déforestation en cours. Et je me suis rendue sur le chantier du métro, avec d'autres Adivasis. Nous avons chanté, nous avons formé une chaîne humaine jusqu'à 3 heures du matin, pour empêcher l'abattage des arbres. Mais nous n'avons pas réussi, car la police nous a arrêtés et nous a emmenés au poste. On nous a d'abord dit que cela ne durerait que quelques heures. Mais je suis restée en cellule pendant plusieurs jours.
Ici, vous pouvez voir une statue de Birsa Munda, un légendaire combattant tribal pour la liberté. Il a mené plusieurs armées Adivasi contre l'envahisseur anglais au 19e siècle. Il est un héros pour les Adivasi et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance. Les Adivasi d'Harare se sont donc rassemblés pour commémorer son combat.
Donc en fait, comme les manifestations pour la forêt sont interdites, vous joindre à cet événement avec les peuples tribaux, c'est une manière de pouvoir manifester.
C'est ça, les citoyens urbains qui se battent pour sauver Harare le font bien sûr pour la ville de Bombay. Mais aussi parce que les terres des Adivasi sont spoliées.
Là, derrière la barricade, on voit le béton qui commence à s'élever, le dépôt de métro va être construit, les arbres ont été coupés. Pourquoi est-ce que vous continuez le combat?
Il y a près de 4000 arbres sur le site du chantier. Une grande partie d'entre eux sont encore debout. Ils ont menti pour tuer le mouvement, pour que les gens aient l'impression que tout était déjà perdu. Leur stratégie, c'est de construire ce métro en prétextant qu'il n'y avait pas d'autre emplacement disponible pour son terminus. Ainsi, si on ne construit pas ce dépôt de métro, alors le métro ne peut pas fonctionner. Et si le métro ne peut pas fonctionner, Bombay va en pâtir, car la ville est surpeuplée et a désespérément besoin de transports en commun.
Donc si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre le développement.
Exactement. Si vous protestez contre ce dépôt, vous protestez contre le métro. Donc vous êtes contre le développement et par extension, vous êtes des ennemis de la nation.
This tight motherfucker rust the buildings. Zhada, kuchhi does this tight. Suk tight pana full rang sur tight. Jeva zhada kaple zatai. Rad tight prani ghabar tight pal tight. Ghar hote nasht hai bagul up tight. Pakshi pan gaat night avas karat night. Sarpa bol to hai sarva swati hat. Kai bhitnar nasht karuna sa jungle. Tiknar nai kai titi kapil tela lagel hai sarvanchi. जब पूरा ना तू सांगशील इत्यादि एक हिरवगार जंगल होता आरे फॉरेस्ट नावाचं पण तेव्हा ते फक्त आणि फक्त असतील आठवणी वेळ अजून गेली नाही झाड जगवा प्रदूषण मिटवा आरे फॉरेस्ट टिकवा.
On est dans mon home studio en Inde, à Bombay, dans le quartier de Dongri, Bombay 0009.
Bonjour Jazzy, ça fait combien de temps que vous faites du rap ?
Je rappe depuis que j'ai 16 ans et à l'école j'écrivais des textes et puis j'ai choisi de devenir ingénieur du son. J'ai lancé mon studio maison et commencé à produire des artistes underground qui sont devenus célèbres aussi.
Quels sont les sujets que vous abordez dans vos textes ?
En général, nous rappons seulement sur des problèmes sociaux, par exemple le droit des femmes ou encore sur la pauvreté. Notre crew s'est fait connaître pour l'engagement social de ces textes.
Et comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la forêt d'Arrée, justement ?
C'est évidemment important parce que la forêt d'Arrée est le poumon de Bombay. Il nous parle d'un métro, mais c'est comme s'il injectait du tabac dans le poumon de Bombay. Il n'y a plus d'air frais à Bombay parce qu'il n'y a plus d'arbres. En tant qu'artiste, nous avons décidé de faire un morceau pour réveiller les consciences. J'ai donc écrit un refrain.
Like dole ugda jage vaachla uta ata kai na kela ata tar bhavishya asel kala dole ugda jage vaachla uta ata kai na kela ata tar kata banel surra.
Qu'est-ce que ça veut dire ce que vous venez de nous chanter?
Open your eyes, get up.
Ouvre les yeux, réveille-toi. Il ne te restera plus rien si le chantier a lieu. Ton futur est totalement sombre. Si tu ne te réveilles pas à temps, l'épingle va se changer en couteau.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui se sont engagés pour Arrée comme ça?
Oui, beaucoup d'artistes ont écrit dessus, parce qu'ils savent que le pouvoir du stylo dans le hip-hop peut déclencher des révolutions. Nous essayons donc, avec nos stylos, avec tout ce que nous pouvons, de nous battre à 100%.
Merci Jazzy Nanou.
Allez, thank you bro, thank you.
I'm Nirali Vaidya and I'm currently working as a.
Je m'appelle Nirali Vaidya.
And I have been.
Je suis une activiste citoyenne et une blogueuse sur les questions d'environnement et de politique locale.
Vous êtes née à Mumbai, vous êtes une Mumbaikar comme on dit. Comment est-ce que la ville a changé depuis cette époque?
I'm blessed to be living in a city of Bombay that.
Je suis heureuse de vivre dans une ville comme Bombay, qui a des paysages si variés, une côte splendide, des rivières, des lacs, des collines.
So, over the period of time, I have seen that my natural.
Mais au fil du temps, j'ai vu la faune, la flore et la topographie naturelle de la ville être recouvertes par le béton.
There is construction happening on the rivers. The
forest. On construit sur les rivières. On remplace les forêts par des projets d'infrastructures. Les collines sont occupées par des bidonvilles et des immeubles.
Donc vous avez lancé une pétition sur change.org à propos de la forêt d'Arrée.
For every Mumbaikar, Arrée Forest is its lifeline, you know.
La forêt d'Arrée fait partie des souvenirs de tous les habitants de Bombay.
With biodiversity,
cette forêt nous a offert de l'air frais, de la biodiversité, de la tranquillité, de la joie.
Our forest being compromised.
Et cela brise le cœur de l'avoir menacé par des projets qui pourraient très bien être construits en dehors de la forêt.
This petition
Ma pétition a reçu des soutiens, non seulement depuis Bombay, mais depuis toute l'Inde, depuis toute la planète, pour sauver la dernière des forêts urbaines des griffes du développement. Comme moi, des centaines de milliers d'habitants sont du même avis. Personne n'est contre le métro. Nous voulons tous que notre Bombay se dote de transports publics efficaces. Mais ce réseau ne peut pas se construire en détruisant une forêt. Bien sûr, les transports publics permettent de limiter les émissions de CO2, mais comment allons-nous produire l'oxygène que la forêt fournit à la ville?
Mais votre pétition, elle ne concerne pas seulement le projet de métro, elle concerne en fait beaucoup d'autres projets qui pourraient avoir lieu dans la forêt.
Nous le répétons depuis le début, ce métro n'est qu'un prétexte pour envahir la forêt d'Aray. On ne parle pas de petites surfaces. 36 hectares de bidonvilles vont être réhabilités. 97 hectares vont être dédiés à la construction d'un zoo. 2 hectares pour une tour du département des routes et transports de Bombay. 62 hectares pour le terminus de métro. 177 hectares pour les studios de Bollywood. Au total, ce sont 346 hectares de forêt qui vont être sacrifiés pour ces projets.
Bonjour, je m'appelle Anand Pandarkar. Je suis biologiste spécialiste de la vie sauvage et fondateur de Sprouts, une ONG qui fait de la recherche et de la protection de la vie sauvage. Cela va faire 30 ans que nous étudions l'écosystème d'Aray. À la minute où nous sommes entrés dans la forêt, la température est descendue de 4 ou 5 degrés. Cela s'explique par toute la végétation et l'humidité que l'on trouve ici. Et cette végétation régule la température de la ville. Et c'est aussi un puits de carbone. Autour de nous, nous pouvons voir que c'est la plaine inondable de la rivière Miti. Les collines au loin amènent l'eau jusqu'ici durant la saison des pluies. Et c'est ce qui évite à la ville d'être inondée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bétonner cette zone éponge.
Et qu'est-ce que c'est tout ce béton et toutes ces lignes électriques qu'on voit autour de nous ?
C'est ici qu'il est prévu de construire le dépôt de métro. Pourtant, il y a de nombreux emplacements dans la ville où ce bâtiment aurait pu être installé. Imaginez que je vous bande les yeux et puis que je vous lâche ici. Est-ce que vous imagineriez construire une zone résidentielle ou des bureaux administratifs ? C'est recouvert de plantes grimpantes, d'herbes et d'arbres.
Quel genre d'arbres on trouve ici ?
C'est une forêt de moussons. Les manguiers, les arbres touffus, les plantes grimpantes que vous voyez sont des espèces qu'on ne trouve que dans les forêts sauvages.
Qu'est-ce que c'est ces fleurs rouges là ?
C'est une plante médicinale que l'on retrouve dans la médecine ayurvédique. On l'appelle le gingembre crêpe. Ces 20 dernières années, nous avons listé 1147 plantes et animaux différents ici. Les plantations sont juste des monocultures uniformes. Alors, même si vous plantez 20 espèces différentes, eh bien, vous n'aurez que ces 20 espèces.
Autour de nous, on peut entendre des bruits d'oiseaux partout. On voit des oiseaux qui volent. Quelles sont les espèces ?
Donc, Aray abrite à la fois des animaux résidents et migrateurs. Les milans noirs que nous avons vus se reproduisent ici. Ils sont résidents. Dans les zones humides, vous pouvez voir beaucoup d'oiseaux aquatiques, des aigrettes, des iris, des hérons. Certains viennent d'aussi loin que la Russie occidentale, le Kyrgyzstan ou l'Himalaya. Ici, vous pouvez voir les éraflures d'un léopard. C'est comme cela qu'il marque son territoire.
Ça veut dire qu'un léopard était là il n'y a pas longtemps du tout.
Oui, probablement cette nuit ou très tôt ce matin.
Là, on est au milieu de la forêt, il y a une route, et le trafic est abominable. Qu'est-ce qui se passe ici ?
C'est une route qui relie le nord et le sud de Bombay. En coupant par la forêt, les automobilistes peuvent gagner 30 à 40 minutes de trajet. Aujourd'hui, il est prévu de construire une autre route par-dessus. Auparavant, cette coupure n'existait pas. Les léopards pouvaient traverser. Avec une route aussi fréquentée, les léopards se retrouvent coincés dans certaines parties de la forêt. Et c'est ainsi qu'on voit des conflits entre hommes et animaux et des attaques accidentelles. Là, sur notre gauche, vous pouvez voir les plantations mises en place pour compenser la déforestation du chantier. Et vous voyez, plus de la moitié des arbres sont déjà morts. Et ceux qui restent vont prendre de 25 à 30 ans avant de grandir vraiment. Ceux qui ont été coupés étaient centenaires.
Je m'appelle Yutika Bar et j'ai 18 ans. Je souffre d'insomnie. Après avoir lu tant d'articles, j'ai réalisé qu'on nous avait menti toute notre vie. On nous a appris que tout allait bien, que c'était normal de laisser ces ordures sur le bord de la route, que c'était normal de couper des arbres, parce que nous avons besoin de développement. Mais il y a tellement plus dans ce monde. C'est triste. C'est extrêmement triste que les gens ne voient pas plus loin que leur profit. Quand j'étais en première, j'ai découvert dans les journaux comment les gens se battaient pour sauver les arbres. À Mumbai, Aré était le dernier poumon vert dont nous disposions. Et ils ont décidé de le détruire, pas pour un métro, mais pour des tas d'autres projets qui vont avoir lieu.
Et comment est-ce que vous avez participé aux manifestations pour protéger la forêt d'Aré ?
Nous avons d'abord organisé une marche le long de la plage pour mobiliser les gens et les informer qu'à force de mélanger notre jungle urbaine avec la jungle primitive, nous avions créé un véritable chaos. Et puis la nuit du 4 octobre, ils ont commencé à couper des arbres dans l'illégalité. Et je me suis rendue là-bas pour faire quelque chose, ne pas se contenter de pleurer et de se plaindre. Et quelle a été la réponse ? J'ai été placée en détention. Je ne m'étais jamais sentie aussi démunie de ma vie. La police ne m'a pas bien traitée. Est-ce mal de demander de respirer un air sain ? Est-ce ma faute si moi et ma petite sœur, qui n'a même pas encore vu ce monde, allons attraper des maladies respiratoires ?
Comment est-ce que vos parents ont réagi à votre arrestation ?
Lorsqu'ils ont su qu'on m'avait amenée au poste, ils m'ont engueulée. Ils m'ont demandé : qu'est-ce que tu fichais là ? Ils vont faire ce qu'ils ont à faire de toute façon. Pourquoi perdre ton temps et tes efforts ? Mais il s'agit de se lever pour ce en quoi l'on croit. Et je crois que si ma génération ne se réveille pas, la prochaine sera morte avant même d'être née. Je fais mes recherches, je participe au plus de rendez-vous et de séminaires possibles pour me tenir informée, afin de ne pas bavarder, mais de m'appuyer sur des faits. À la maison, ils n'aiment pas que je fasse quoi que ce soit en dehors de mes études. Alors je mens par omission. Je leur dis que je suis dehors parce que j'ai un devoir important à faire au lycée. Ils ne savent pas à quel point je suis engagée.
Bonjour Ishpriya, vous êtes membre de plusieurs organisations de jeunes qui militent pour l'environnement à Bombay. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
J'ai pris conscience de la crise climatique il y a quelques mois en juin. J'ai commencé à perdre le sommeil et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai lancé ma page sur Instagram, je suis allée dans des écoles, dans des lycées et j'ai lancé mon groupe étudiant appelé Combat pour un avenir équitable.
Comment est-ce qu'elle réagit cette nouvelle génération lorsque vous allez vers elle pour lui parler d'environnement ?
Je crois que la jeunesse est plus active et prend plus conscience de l'ampleur du problème que les adultes, parce que les jeunes le perçoivent comme une menace directe sur leur existence, alors que les adultes ne seront peut-être même plus là pour faire face aux conséquences de la destruction de l'environnement. À Mumbai, maintenant, il y a Friday for Future. Les étudiants sortent de leurs écoles pour protester. Il y a plein d'autres groupes qui grandissent, comme les Eco Warriors, Extinction Rebellion, mon groupe, ou l'Association des jeunes indiens.
Donc il y a eu une grosse mobilisation des jeunes pour défendre la forêt d'Arrée. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux en Inde. Est-ce que ce n'est pas un micro-problème par rapport à d'autres crises que traverse le sous-continent ?
Sur les 15 villes les plus polluées au monde, 13 sont en Inde. Et je crois que grâce à Arre, la jeunesse en a pris conscience. Parce qu'à force de faire des recherches, la jeunesse réalise qu'Arre n'est qu'une petite partie du problème beaucoup plus vaste qu'est la crise climatique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport et nous a mis en garde. Mumbai est une ville côtière très proche du niveau de la mer. Elle va être une des premières villes à s'effondrer. Il est prévu que la ville soit inondée et complètement détruite d'ici 2050. C'est donc positif qu'il y ait eu ce mouvement autour d'Arre, car ça a permis à la jeunesse de s'instruire sur tout cela.
खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे अब ना पूछना दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या शिखर ये सोच पर जुड़ा हूँ मैं जमीन से यकीन तुमको ना पर आ गया या मैं यकीन से लाख नफरतें हो साथ माँ का प्यार है हंसी है उसकी जीत मेरी कैसे जाऊँ हार मैं काट लो जुबान आंसुओं से गाऊंगा गाड़ दो बीज हूँ मैं पेड़ बन ही जाऊंगा दिल था टूटा तब हिप हॉप मेरे साथ था उजाले मिलने में मुझे हर रात का ही हाथ था कलाकार मैं कल को आकार दूं यही है मेरा धर्म मेरी दूसरी कोई जात ना माँ है रब मेरी गली ये मेरी माशुका लड़का एड़ा मैं झुकाने पर भी ना झुका सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे बनाता गीत मैं पर मैं खुद बना हूँ तुमसे गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो नैनों को मैं नम करूँ सुकून मैं देता कान को चिल्लाओ जोर से उठाओ अपने हाथ तुम असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को हाँ जी हिंदुस्तान को असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को हाँ जी हिंदुस्तान को असली हिप हॉप से मिलाए हिंदुस्तान को क्या
Un reportage de Combastin réalisé par François Porcheron. Et preuve que la mobilisation citoyenne peut porter ses fruits. Quelques jours après notre reportage, les activistes ont obtenu gain de cause sur le tracé du métro. Suite à un renversement d'alliance dans l'état de Bombay, un nouveau Premier ministre a pris la tête du Maharashtra. Il a annoncé que les travaux pour la ligne de métro dans la forêt d'Arre allaient prendre fin et qu'un nouvel emplacement allait être recherché pour le terminus. Bon, toutes les poursuites judiciaires contre les citoyens arrêtés ont également été levés. Les militants ont célébré évidemment cette décision, mais ils restent vigilants car les projets de zoo, de réhabilitation de villages et de gratte-ciel sont toujours d'actualité dans la forêt de Bombay. Nous sommes toujours avec Elliot Lopers de l'ONG Le Mouvement et Chloé Gerbier de l'association Notre Affaire à Tous. Comment réagissez-vous à ce reportage, Elliot Lopers ?
Effectivement, la question des projets locaux, elle est internationale et que les politiques qui sont pas au niveau de la part de nos gouvernements, elles sont souvent abstraites quand on les discute au niveau des COP, mais elles deviennent très concrètes quand on voit ce que ça veut dire dans les territoires. Et ce que ça veut dire très concrètement pour la qualité de vie, pour le quotidien des hommes et des femmes qui habitent à proximité de ce genre de sites polluants. En France, on a 1400 sites extrêmement polluants, référencés par l'Union européenne, qui sont moins taxés que les ménages. Bah, il faut imaginer ce que ça veut dire quand on habite à quelques centaines de mètres d'une usine qui rejette des polluants dans les rivières, qui pollue les sols, etc. C'est qu'on est en train de sacrifier notre territoire, on est au courant et on est en train d'assister à ça sans bouger. Et donc, bah, y a une opportunité parce que tout simplement, il y a des solutions qui se situent très concrètement avec un enjeu qui est celui de l'emploi. Et souvent, c'est d'ailleurs l'argument de l'emploi qui est utilisé pour justifier l'implantation de sites. À nous de nous battre pour montrer que eh ben, non seulement ces sites ils ne créent pas plus d'emplois qu'ils n'en détruisent, au contraire, qu'ils créent un niveau d'emploi qui n'est pas pérenne, qui contribue au dumping social. Et donc, à nous de construire avec les habitants localement des alternatives qui soient vertueuses et qui permettent de créer un emploi durable et respectueux de l'environnement pour toutes les personnes qui habitent localement.
Chloé Gerbier, on voit bien que ça marche, la mobilisation, par exemple, à Bombay.
Oui, en effet, on voit que ça marche, que ça peut aboutir. Néanmoins, comme vous disiez très bien, c'est une victoire et on n'a pas gagné la guerre. On peut le voir sur un projet, par exemple, comme Europa City, cet immense centre commercial sur des terres fertiles à Gonesse, où en effet, le projet en lui-même, qui contenait à la base même des pistes de ski, a été abandonné. Et néanmoins, on promet quand même l'urbanisation de ces terres. Et je pense que c'est vraiment sur ce long terme et sur des projets, comme disait assez bien Elliot, d'emploi durable et aussi de mode de vie durable qu'il faut tabler aujourd'hui.
Elliot Lepers, avec ce reportage, on se dit que vous pourriez lancer un super local mondial.
C'est marrant, on a beaucoup de demandes et effectivement, on pourrait faire un super international. En tout cas, cette idée d'avoir une forme d'agence tout risque, de mutualiser des expertises qui puissent servir un peu partout, ça me semble parlant parce qu'on se rend compte que c'est à peu près les mêmes combats, c'est les mêmes opposants, c'est les mêmes raisons. Et donc, finalement, ça crée aussi un lien de revenir au niveau local. On se rend compte que ce sont les mêmes enjeux qui sont dupliqués partout sur la planète et que ça nous permet de se sentir moins divisé, se sentir moins isolé.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Autre continent, autre combat, direction les États-Unis, dans le sud du Texas. Bonjour Rebecca Hinojosa.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du Sierra Club pour le sud du Texas. Le Sierra Club, c'est la plus ancienne association de défense de l'environnement américaine. Et vous êtes l'une des figures du mouvement populaire réuni sous la bannière « Sauver la vallée du Rio Grande du gaz naturel liquéfié ». Vous êtes venue à Paris à l'invitation des Amis de la Terre pour interpeller une banque française, la Société Générale, impliquée en tant que conseiller financier sur un méga projet de terminal d'exportation de gaz de schiste. Merci à Laurette Philippot des Amis de la Terre qui va réaliser votre traduction. Alors Rebecca Hinojosa, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer l'ampleur de ce projet ?
Rio Grande LNG is a massive fracked gas project.
Rio Grande LNG est un projet massif d'exportation de gaz de schiste qui est prévu dans ma communauté au Texas.
It is one of three fracked gas export terminals we are fighting.
C'est l'un des trois projets d'exportation de gaz de schiste contre lesquels nous nous battons.
The project would export gas from the Permian Basin.
Le projet aurait pour vocation d'exporter du gaz de schiste en provenance du bassin permien, qui est sur le point de devenir l'une des bombes climatiques les plus importantes au monde.
Pourquoi est-ce que ça serait une bombe climatique ?
The Permian Basin is a massive shale basin.
Le bassin permien est un énorme bassin d'extraction de pétrole et de gaz de schiste où il y a énormément de puits et bientôt ce seul bassin pourrait dépasser en termes de production de gaz et de pétrole l'Arabie Saoudite.
Et quelles sont les conséquences sur l'environnement et sur votre communauté de ce projet contre lequel vous vous battez ?
Rio Grande LNG and the
Rio Grande LNG est un de trois projets d'exportation de gaz de schiste qui menace à la fois la santé et la sécurité de ma communauté, pourrait détruire des espaces fauniques très, très riches et menace également la biodiversité. Il menace aussi de violer les droits des populations autochtones là depuis très longtemps sur ce territoire.
And it would be absolutely terrible for the climate.
Et serait bien sûr absolument critique en termes d'impact climatique.
Alors l'argument mis en avant par ceux qui soutiennent ce projet, c'est qu'une centrale à gaz, ça émet deux fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon.
Rio Grande LNG and the other two fracked gas export terminals.
Rio Grande LNG et les deux autres terminaux d'exportation de gaz de schiste qui sont prévus dans la vallée du Rio Grande auraient pour conséquence climatique d'émettre autant que 66 centrales à charbon. Si on regarde justement à l'intégralité de la chaîne de valeur du gaz depuis l'extraction en passant par l'exportation et la consommation.
Vous étiez à Madrid la semaine dernière pour la COP25. Qui a été quand même un joli fiasco. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre combat peut être entendu, surtout aux États-Unis en ce moment ?
Donc
j'étais à la COP25 à Madrid avec une délégation de personnes venant des États-Unis pour justement sensibiliser sur les impacts climatiques du bassin permien qui pourrait devenir cette énorme bombe carbone à retardement et également pour justement faire des connexions et des liens avec d'autres activistes et militants qui se battent contre le gaz.
Est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'être entendu dans le contexte politique international actuel ?
Oui, nous travaillons avec des activistes en Europe, en France et en Irlande notamment, pour justement freiner cette exportation massive de gaz de schiste, et notamment en augmentant la pression vis-à-vis de Société Générale qui est active dans le soutien du projet Rio Grande LNG. Nous faisons connaître au niveau international que ce projet est non seulement rejeté par les communautés qui en seraient impactées, mais également serait désastreux pour le futur du climat.
Vous êtes déjà venu il y a 2 ans pour dénoncer vos inquiétudes vis-à-vis de ce projet. Frédéric Oudéa, le directeur de la Société Générale, a indiqué publiquement qu'il prendrait d'ici la fin 2019 une décision sur la poursuite ou non de ses soutiens. Mais la Société Générale peut peut-être se retirer, mais est-ce que pour autant le projet serait annulé ?
2 years ago, I traveled to Paris with the chairman Juan Mancias.
Il y a 2 ans, nous sommes venus à Paris, moi et Juan Mancias, qui est donc le chef de la tribu autochtone des Comecho Comecrudo du Texas. Et nous sommes venus pour confronter directement les banques françaises BNP Paribas et Société Générale sur leur soutien et leur implication dans les projets qui toucheraient la vallée du Rio Grande, d'où je viens. Quelques mois plus tard, BNP Paribas a justement fait signe qu'elle avait entendu nos voix et a annoncé son retrait de ce projet-là.
Société Générale must follow BNP Paribas and other banks.
Donc maintenant, Société Générale doit suivre l'exemple de BNP Paribas, mais également d'autres banques comme Crédit Mutuel ou Crédit Agricole ou Unicredit en Italie, qui se sont déjà engagés à ne pas soutenir ces projets de la vallée du Rio Grande. Son retrait du projet est absolument crucial pour que ce projet dévastateur ne continue pas à se développer et puisse un jour voir le jour.
We will continue to fight in my community.
Nous poursuivrons le combat dans ma communauté, quel que soit le choix de la banque. Nous continuerons à nous battre pour que ce projet ne soit pas construit.
But Société Générale must withdraw from Rio Grande LNG.
Mais Société Générale doit se retirer maintenant de Rio Grande LNG.
Thank you very much. Merci beaucoup.
Thank you.
Chloé Gerbier, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Eh ben, on voit très bien, comme vous le disiez précédemment, que c'est des enjeux aussi qui se jouent à l'échelle mondiale. Parce qu'en fait, elles sont tirées par les multinationales, par ces multinationales qui en fait imposent leurs décisions prises à l'échelle globale, des terribles conséquences à l'échelle locale. Au sein de l'association Notre Affaire à Tous, on est notamment en train de travailler à activer le devoir de vigilance qui impose aux entreprises d'adopter des trajectoires en cohérence avec les rapports du GIEC. Et aujourd'hui, on met en demeure totale de se conformer à l'urgence climatique et donc d'adopter ces trajectoires. Donc en fait, on voit très bien aussi que ce combat, il est aussi un combat à l'échelle globale. Et pour se battre contre ces conséquences qui ont lieu à l'échelle locale et qui créent tout ce qu'on peut appeler les inégalités climatiques, qui encore une fois que les plus riches, ceux donc qui polluent le plus, imposent les conséquences du réchauffement climatique, principalement aux personnes les plus défavorisées.
Mais c'est vrai, Elliot Lepers, on l'entend, hein, cette communauté là dans le sud du Texas est menacée dans son quotidien. C'est-à-dire que si ce terminal est construit, c'est tout leur environnement qui va être ravagé.
Ce qui est dingue avec les problématiques écologiques et environnementales, c'est qu'on est toutes et tous dans le même bateau. Et on voit bien que là, on parle de banque française. Et donc, nous, on se mobilise en France, avec notamment Alternatiba, avec les Amis de la Terre, avec ACOP21. Parce que c'est la responsabilité, c'est des décisions qui dépendent effectivement d'une entreprise française, mais qui ont des conséquences à l'autre bout de la planète. Et tout est comme ça. Et donc, nous, on est une communauté mondiale à essayer de faire entendre raison à des intérêts économiques. Et c'est assez absurde, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, malgré les discours, malgré les engagements vis-à-vis de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, on soit encore à devoir défendre l'évidence pour des destructions qui se passent absolument partout dans le monde.
Et alors, Chloé Gerbier, vous lancez avec le collectif Notre Affaire à Tous une autre démarche, hein, en plus de super local. Ça s'appelle Témoins du climat. Là aussi, c'est un appel à témoignage, un appel à mobilisation. Ça consiste en quoi ?
Alors, c'est une initiative qui s'inscrit dans l'affaire du siècle, donc qui a aujourd'hui un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, nous demandions à l'État de répondre de son inaction face à l'urgence climatique, encore une fois, ces enjeux économiques, ces enjeux qui se jouent parfois à l'échelle globale et qui ont pourtant tant d'impact et qui sont prises en fait sans même nous consulter. Donc l'affaire du siècle a un an, l'État n'a toujours pas répondu et n'a pris aucune décision à la hauteur du défi climatique.
Malgré les plus de 2 millions de signatures.
2 millions de signatures, oui, et toujours aucune réaction. Et donc ce projet, témoin du réchauffement climatique, s'inscrit en fait dans ce but de mobilisation pour ouvrir les yeux de l'État et le pousser à agir. C'est pour ça qu'hier, on a lancé un grand appel à témoignages pour construire une cartographie des impacts des changements climatiques en France selon le point de vue des citoyens. En fait, les citoyens sont appelés à décrire les changements qu'ils observent, mais bien aussi à décrire la manière dont ils sont impactés dans leur santé, leur logement, leur perte de revenus, leur vie quotidienne, mais aussi leurs préoccupations et parfois leurs angoisses, elles existent. Et ainsi, ces témoignages vont constituer une cartographie de la situation climatique en France.
Et certains de ces témoignages pourraient également être intégrés au dossier juridique par les avocats de l'affaire du siècle, du coup.
Ils permettent de créer des dossiers en effet de témoignage. L'action, elle, est portée par quatre associations, donc Notre Affaire à Tous, FNH, Oxfam et Greenpeace.
À suivre donc, hein, que ce soit super local ou témoin du climat, les coordonnées de vos projets sont évidemment sur la page de l'émission sur RFI.fr. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou contactez-nous par mail cestpasduvent@rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Ce samedi sur RFI.